Avant de continuer ce discours et de revenir là où on en était, je voudrais nommer juste le fait que j'ai eu plusieurs pensées, en fait, que c'est un peu particulier pour moi d'être un homme et vous toutes des femmes, et que je l'ai vu dans mon esprit, notamment surtout en ces temps où il y a beaucoup de questionnements sur la place de l'homme, voilà, d'être là, d'être dans cette posture de celui qui sait, et puis aussi d'être en bout de table. Ça me faisait un peu particulier. Et d'autant plus que ben, je n'avais pas cuisiné parce que j'étais à l'abbaye et que je n'avais pas la possibilité d'amener quelque chose, donc j'étais un peu le seul à rien avoir amené, semble-t-il. Et voilà, ça m'a un petit peu mis dans un questionnement, en fait, et je voulais juste le nommer, en fait, parce qu'on est aussi à une époque où ces choses doivent se dire. Donc j'avais envie de le faire. Voilà. Nathalie me disait que ce n'était pas forcément une décision, en fait, de n'être que des femmes, mais que ça s'est fait comme ça entre vous, qu'il n'y a pas forcément d'hommes qui ont joué à votre association de pleine conscience. Donc, nous avons exploré beaucoup de choses, hein, et je suis bien conscient d'avoir amené beaucoup là au milieu du cercle. Voilà, je ne m'attends pas du tout à ce que vous puissiez tout prendre, ni même tout comprendre. C'est normal de ne pas tout comprendre et de n'en retenir qu'une partie, ça va très bien. Il y aura, je vous le disais aussi, des enregistrements si des choses vous ont interpellé. Et je vais essayer de rester un peu dans ce secteur qu'on a exploré et développer un petit peu, surtout, enfin on en a exploré quelques-uns, mais surtout celui des manières de voir. Voilà, c'est un style de regard, un style de dharma, un style de pratique, de relation, qui m'a été amené principalement par un enseignant qui s'appelle Robert Béhin, un enseignant anglais qui est décédé maintenant, et qui, je pense, a fait un travail fantastique au niveau d'une des interprétations. Il y a des milliers d'interprétations, en fait, des textes bouddhistes, et il a amené une interprétation que je trouve très, très intéressante et qui tourne beaucoup autour de ces manières de voir. Et donc, il y a beaucoup d'inspirations qui viennent de lui dans ce que je vous propose. Alors, on connaît déjà, on est familier avec le fait que des interprétations, donc une interprétation, ça peut être, comme je le disais tout au début, en fait, tout est interprétation si on va au niveau des neurosciences, à les perceptions, et le cerveau nous offre une interprétation de la meilleure possibilité que ces perceptions puissent être. Donc c'est déjà une interprétation quelque part. D'autres créatures, d'autres humains pourraient avoir une interprétation différente avec les mêmes signaux. Donc déjà là, c'est une interprétation à un niveau très très fondamental. Maintenant, il y a toute une échelle en fait d'interprétation. Si on vit au niveau de la base, beaucoup plus psychologique peut-être, et beaucoup plus aussi dans notre quotidien, on a des interprétations tout le temps face à toutes les situations. Donc on va avoir une situation, par exemple, notre compagnon, compagne rentre, quand il ou elle rentre, on sent que ben voilà, il y a une tension, il y a pas vraiment un lien, on n'est pas vraiment regardé, il n'y a pas vraiment de réponse à notre bonjour et tout ça. Et là, de ça, directement, en fait, il va y avoir une réponse émotionnelle, une réponse qui va se traduire par des mots, un type de pensée. Et là, il peut y avoir toutes sortes de réponses. Ça peut être, ah, peut-être qu'il a passé une mauvaise journée, ou peut-être, en fait, cette nuit qu'il avait mal dormi. Ça, voilà, ça peut, on peut avoir aussi une réponse en disant, ben, on sait que il n'y a pas forcément une stabilité émotionnelle. Il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. C'est comme ça fait partie de la vie. Ça peut être lui, il vient de vivre quelque chose de difficile. Peut-être il a eu des problèmes au travail ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être parce que il m'en veut parce que c'est jamais moi qui débarrasse le lave-vaisselle et que peut-être il pense que j'en fais pas assez dans la maison et qu'il en fait plus que moi. On a déjà eu des discussions à ce sujet. Et du coup, nos pensées peuvent partir vers là. Et en fait, il y a plein de manières d'interpréter ça. Et suivant celle qui va prédominer dans notre esprit, on va vivre des émotions. Et Papancha va prendre toute son ampleur. Voilà, et là, Papancha peut développer des territoires énormes, ramener beaucoup de passés, y compris des histoires avec peut-être nos anciens conjoints, y compris des histoires familiales, des histoires, voilà, ou au travail et tout ça. Tout ça peut se mélanger en une espèce de gros pot commun, un pot pourri, on pourrait dire, et dans ce cas-ci. Et du coup, en fait, atteindre une grande complexité à l'intérieur. et qui nous fait vivre des choses parfois très très difficiles, et puis qui fait que quand on va croiser notre conjoint, conjointe, on va avoir une réponse qui n'est peut-être pas du tout appropriée à ce qu'il ou elle est en train de vivre. Parce qu'on a laissé se développer en nous une réponse qui est complètement personnelle, privée, qui a ramené énormément de notre passé, énormément de notre critique intérieure, de nos fragilités et tout ça. Directement, en fait, ça a fait résonner quelque chose comme ça. Et ça, c'est une interprétation. Ça ne parle pas du tout de ce qui se passe pour la personne ou de la réalité. Si on veut vraiment savoir ce qui se passe, en fait, il va falloir le demander. Et à la façon dont on va le demander aussi, ça va bien sûr enclencher des choses. Donc c'est vraiment très, très complexe. On peut aussi avoir d'autres types d'interprétations qui viendront plus de nos pratiques, qui vont être, par exemple, on peut sentir que là, il y a une tension, on peut aussi se dire, ben voilà, c'est impermanent, en fait, on sait que ça va passer, et du coup, on se relaxe avec ça, et on attend que ça passe, et peut-être quand c'est passé, il y aura quelque chose de possible de discuter ou d'aller voir, en fait, ce qui se passe. Donc ça peut être autre chose, et hop, là, il va y avoir un lâcher-prise sur Papancha, c'est ce qu'on vient de voir, sur la prolifération des pensées. Il va y avoir quelque chose qui se met sur pause, les pensées vont moins proliférer, on va retrouver un peu plus d'espace. Parce que dès qu'en fait on est émotionnellement touché et que les pensées commencent à proliférer, notre attention se focalise et du coup on n'a plus cette sensation d'espace. Hein? C'est des choses qu'il faut remarquer, ça en fait. Comment l'attention peut se concentrer, se focaliser. Et quand l'attention est focalisée sur une chose, elle devient très grosse. C'est comme si on zoomait, hein? Si on a des jumelles et qu'on zoome sur quelque chose, et ben, cette chose prend toute l'image. Et si on dézoome, à ce moment-là, elle fait toujours partie de l'image, mais il y a beaucoup plus d'espace. Et donc, voilà, on peut se dire, ben voilà, sachant que c'est impermanent, et après, on n'a même plus à se le dire, en fait, ça devient comme un réflexe. Ou bien, ça peut se mélanger, cette manière de voir peut se mélanger avec une autre qu'on a aussi beaucoup cultivée, si on la cultive, qui est celle de la bienveillance, qui est sentir que l'autre personne est en tension en ce moment et que c'est vraiment pas agréable à vivre, on le sait, on connaît ces tensions, et plutôt que de se laisser envahir par les nôtres et ce que notre réponse génère, eh bien on va avoir une réponse de bienveillance vis-à-vis de l'autre, et d'empathie et de compassion, ce qui va en fait quelque part nous connecter, même s'il n'y a pas possibilité de relation en ce moment parce que cette personne, notre conjoint, conjointe, a besoin d'un peu de distance, mais nous, il y a une ouverture, il y a du cœur, et du coup, en fait, ce qu'on vit, ça reste agréable, parce que quand on vit de la bienveillance, ben, on est le premier bénéficiaire, puisqu'on vit de l'amour, en fait. Donc, c'est pour ça que s'entraîner à la bienveillance, c'est un super plan, en fait, parce qu'on se retrouve tout le temps à vivre de l'amour quand on arrive à éprouver de la bienveillance le plus souvent possible, on est les premiers bénéficiaires tout le temps. Et les autres aussi, en fait, c'est gagnant-gagnant parce que voilà, dans l'amour, ça ne se sépare pas aussi facilement. Il y a une unité qui fait que tout le monde est gagnant. Donc voilà deux manières de voir qu'on peut ramener dans cette circonstance-là, mais dans toutes circonstances, en fait. Mais pour pouvoir les ramener, il faut les avoir entraînés. Hein, il y a une notion d'entraînement, en fait, à ces manières de voir. J'essaierai d'y penser, à y revenir après, à cette notion d'entraînement. Maintenant, comme je le disais, il y a vraiment une grande gradation et échelle à tous les niveaux de notre être, depuis le niveau le plus perceptif jusqu'au niveau le plus psychologique, il y a une interprétation de la réalité. Quoi que ce soit qu'on appelle la réalité, c'est déjà quelque part notre perception, quoi que ce soit qu'on appelle la réalité, il y a déjà une interprétation. Jusque là où on peut aller. Donc cette interprétation dépend de nos conceptions, dépend de la manière dont on conçoit cette situation. Et donc un autre exemple, je vais dire à un autre niveau de notre être, peut-être plus subtil que ce niveau psychologique de base qui est assez accessible en fait, c'est quelque chose que j'ai constaté en vivant en Inde. Donc, comme je vous le disais, j'ai passé beaucoup de temps en Inde, j'ai appris l'hindi. Et en fait, c'est super d'apprendre une langue étrangère qui est loin de la nôtre, parce qu'au fur et à mesure qu'on apprend un autre langage, on pense différemment. Et quand on pense différemment, en fait, il y a quelque chose qui change dans notre ressenti des événements qui se produisent dans notre vie. Alors, les Indiens, c'est un exemple que je prends très souvent parce que c'est quelque chose que je vis et qui m'a marqué et qui m'impacte toujours. Les Indiens pensent principalement à la voix passive. C'est-à-dire, par exemple, ils vont dire Saadi Naïhoui, oui, ça veut dire le mariage ne s'est pas produit. Ils ne vont pas dire je ne suis pas marié. Alors, quand ils me voient, il y a tous, ils me disaient, parce que, en plus, le mariage, c'est super important en Inde. Hein, si on n'est pas marié, alors c'est qu'il y a un problème. Et comment est-ce qu'on va faire si on n'a pas d'enfant? Parce qu'il n'y a pas la sécurité sociale ni rien là-bas, c'est des enfants, en fait. Donc, comment on fera quand on sera vieux? Donc, ça les tracasse vraiment. Donc, c'est une des premières questions qu'on a quand on rencontre en Inde, c'est ça, dit oui, ton mariage s'est produit. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est pas. Nous, on ne dirait pas comme ça. Nous, on dirait est-ce que tu es marié? Est-ce que tu t'es marié? Non, je suis marié, je ne suis pas marié. Et voilà, où ils vont dire Merepas Peisanaïhe. Donc, près de moi, il n'y a pas d'argent. Ça veut dire je n'ai pas d'argent, je ne gagne pas d'argent. Près de moi. Merepas, ça veut dire près de moi et ça veut dire j'ai. Merepas Patnihe, donc j'ai une femme. Merepas Garhe, donc j'ai une maison. Près de moi, il y a une femme. Près de moi, il y a une maison. C'est comme ça qu'ils pensent. La propriété, près de moi. Nous, on dit j'ai. Ça change. Ça change la manière dont on vit la propriété. Une chose que ça change et qui est énorme déjà, c'est que Sadina et Houi, donc je ne suis pas marié, eh bien, nous on dit je ne suis pas marié, il y a je. Sadina et Houi, il n'y a pas de je. Le mariage ne s'est pas produit. Il n'y a pas un je. Donc en fait, dans ce moment-là, le je n'est pas conçu. Si le je n'est pas conçu, le je n'est pas vécu. Dans ce moment-là, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas la sensation jeu. Les choses se produisent ou ne se produisent pas. Voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon fait. Du coup, il y a moins place pour la culpabilité. Hein? Qui serait coupable? Enfin, les choses se font ou ne se font pas. L'argent vient, l'argent ne vient pas. La chance vient, la chance ne vient pas. Le mariage vient, le mariage ne vient pas. Le sommeil est venu, le sommeil n'est pas venu. Hein? Ce n'est pas jeu qui a réussi à dormir ou qui n'a pas réussi à dormir. C'est les choses se font. Hein, c'est à la voie passive. Et en fait, on a toute une société qui pense comme ça. Alors ça donne quoi? Ben, ça donne une société très relaxe et complètement dysfonctionnelle. Parce qu'elle n'a pas d'emprise. Les choses sont comme elles sont. Un peu fataliste, un peu dans l'acceptation. Dans l'acceptation. Et du coup, dysfonctionnel, parce qu'il y a plein... Alors l'Inde change très vite hein, de nos jours, mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas du tout. Comme les égouts, les systèmes sociaux, enfin, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas et qui n'arrivent pas à organiser. Nous, on arrive très bien à organiser. Nous, on prend les choses en main, nous. Et on fait les choses. Je fais ça, j'ai ce projet-là, je vais faire ça. Et on est tout le temps en train de faire les choses. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le langage va déterminer les attitudes, va déterminer les ressentis, va déterminer les émotions, va déterminer la conception de soi, va déterminer ce qui se passe dans nos journées, en fait. Et je me rappelle qu'à un moment, je me disais, ce qui serait super, c'est de prendre, à mixer, en fait, les Indiens avec les Occidentaux dans un sac, et puis après ça, on sortirait des humains parfaits, en fait, complets. Maintenant, je le vois un petit peu différemment, parce que je pense que, en fait, ce qu'il faut, ce n'est pas un mélange des deux, c'est la capacité des deux. C'est-à-dire la capacité de temps en temps de voir d'une certaine manière et du coup de prendre les choses en main et d'être actif, et d'autres fois d'être complètement dans l'acceptation et de laisser les choses être. Et ça, c'est deux manières de voir différentes. J'ai plein de super histoires, on n'a pas trop le temps, mais j'ai vraiment des histoires à propos de l'Inde et de cette passivité, en fait, qui est à la fois extraordinaire et complètement dysfonctionnelle. Allez, une histoire alors. Donc j'apprenais la musique classique indienne et on faisait mon maître de musique, son style, c'est que tous les mois, on faisait un petit concert. Même, moi je me rappelle, ça faisait 3 jours que j'avais commencé, je jouais des tablas. C'est des percussions. Et donc, il était maître de tabla, on était une dizaine d'élèves, et on faisait des concerts dans sa chambre qui avait la taille de son lit, en fait. Donc, on était tous sur son lit. Une paire de tablas, un harmonium, lui jouait un espèce de piano avant, qui accompagne. Donc, on s'entassait, il y en a qui venaient avec leurs petites copines et tout ça. Donc, on était quand même bien entassés dans cette chambre. Et là, donc à Benares, Très régulièrement, déjà il y a la coupure d'électricité, maintenant je crois que ça n'existe plus, mais avant il y avait la coupure, ils coupaient le courant de 10 h à 15 h, quelque chose comme ça, pour faire des économies, bam. Et puis en plus il y avait toutes les pannes d'électricité qui étaient extrêmement régulières, dès qu'un singe explosait sur un poteau électrique, ou il se passait tout le temps des trucs, quoi. Et donc en fait les pannes étaient extrêmement régulières. Et là, combien de fois on est en train de jouer, c'était le soir, on joue, et puis c'est un étudiant, et puis un autre, et puis un autre, et puis pam, on se retrouve dans le noir. Alors là, c'est le noir complet, on ne voit plus sa main, vraiment, c'est le noir complet. Et là, Guruji, mon maître de musique, très surpris, pas du tout prêt pour la situation. Et qui me dit, Denis, ouais, tu veux bien aller acheter une bougie? On est dans le noir, quoi, il n'a pas une bougie. Là, il cherche sa lampe de poche, il ne sait pas trop où elle est non plus. Vraiment, il n'avait pas prévu le coup, quoi, alors que ça arrive tout le temps. Et il me donne 2 roupies pour aller chercher une bougie. Ouais, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de tournure d'esprit. Et là, je descends dans la rue avec mes 2 roupies pour aller chercher une bougie. Et il y a une file d'Indiens qui fait la file pour aller acheter une bougie. Ouais, c'est la notion du temps, d'anticipation. Et ça, c'est arrivé dizaines de fois. Voilà, c'est une manière, c'est une appréhension du temps qui est différente. C'était extrêmement formateur, en fait, de vivre dans une société qui a un fonctionnement différent. Alors Albert Montquibert, dont je parlais tout à l'heure, ce neuroscientifique, il disait, dans les neurosciences, on a une maxime. En général, on dit, il faut le voir pour le croire. Dans les neurosciences, on dit, il faut le croire pour le voir. Il faut le croire pour le voir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une conception, on en fait la perception. Une maxime, qu'est-ce qu'il disait ça, c'est un philosophe des sciences, la carte existe avant le territoire. Donc on a l'idée et du coup on va faire l'expérience de l'idée qu'on a. Voilà, donc là il y a vraiment un questionnement en fait entre la perception et la conception, qui existe depuis, hein, si vous lisez Descartes ou Nietzsche, ou en fait ce questionnement-là, il est là tout le temps. Il est là aussi dans le bouddhisme, il est là partout. Et c'est à ça que touchent les discours du Bouddha sur les causes de la souffrance, en fait l'ignorance, l'ignorance de qui nous sommes vraiment. Et du coup, comme nous ne savons pas et qu'on ne peut pas fonctionner sans savoir, alors on imagine que. Et on se crée une identité qui est plus ou moins fonctionnelle et plus ou moins dysfonctionnelle, d'où une certaine dose de stress. On pourrait créer une identité, un narratif de nous-mêmes qui serait différent et qui créerait beaucoup moins de heurts avec les choses qui se produisent, qui créerait aussi beaucoup moins de, qui concevrait moins de situations difficiles, qui concevrait moins de souffrances. Et c'est la proposition du Bouddha. C'est la proposition dans cette compréhension du bouddhisme, c'est la proposition du Bouddha. C'est en fait d'apaiser l'esprit, d'être à même de vivre des moments de pleine conscience, et dans un moment de pleine conscience, de faire le choix de la manière dont on veut répondre à une situation, plutôt que de répondre, paraît-il, comme. Dès qu'on est inconscient en fait, de nos réponses, j'ai entendu dire, peut-être vous en savez plus que moi, que la réponse qu'on va apporter à une situation va être une réactivité qui est une réponse qui a été apprise entre 0 et 7 ans, paraît-il. Voilà. Quand on est absolument inconscient de notre réponse, qu'elle est complètement instinctive, c'est une réponse qui va être apprise dans notre très jeune âge, en fait. D'où le fait de répondre toujours de la même manière. Et puis après ça, quand on le regarde, on se dit, mais non, mais j'aimerais quand même bien, en fait, être à même de répondre avec un peu plus de calme ou d'être un peu plus patient dans tel type de situation. Voilà, d'avoir une capacité de répondre autrement. En fait, on a des aspirations. On a envie, en fait, de répondre avec plus de générosité ou avec moins une réaction égotique ou avec moins de colère ou avec. Voilà, où le moment où on va pouvoir répondre différemment à une sollicitation extérieure, c'est quand il y a de la pleine conscience. C'est-à-dire, il se produit une chose et on sait que il se produit une chose et on sait que ça se produit. Et du coup, là, on va pouvoir répondre à la manière dont on aimerait répondre plutôt que de répondre impulsivement. Si on n'est pas conscient, on va répondre impulsivement. Si on amène de la conscience, on va pouvoir mieux choisir notre réponse. Et du coup, on va pouvoir choisir une réponse plus adaptée à nos convictions profondes, à notre développement moral, à notre éthique, qu'une réponse instinctive et impulsive qu'on n'a même pas vu venir. Donc la pleine conscience, elle va servir en fait d'espace pour pouvoir répondre différemment que la réponse automatique habituelle. Mais elle va pouvoir aussi servir à... je vais plutôt aller vers la méditation. Donne-moi une petite seconde. En méditation, dans les moments où on est en méditation, il va y avoir un moment où on est là et on sait qu'on est là. On est présent et on sait qu'on est présent. En fait, j'avais dit que je parlerais un petit peu aussi de samadhi, donc je vais faire ça maintenant. Il y a la pleine conscience en méditation va nous amener à un moment où je perçois et je sais que je perçois. Je respire et je sais que je respire. J'entends un son et je sais que j'entends un son. Les choses se produisent et au fur et à mesure qu'elles se produisent, je suis conscient qu'elles se produisent. Pas de prolifération, pas de construction de mondes qui n'ont rien à faire là finalement. Reste juste ce qui est là. On sait que dans cet espace, à ce moment-là, il y a toujours, on l'a vu, on en a parlé dans le premier discours, il y a toujours un certain degré de construction que, quelque part, la pleine conscience ne va pas pouvoir déconstruire. Mais parce qu'il va y avoir, il reste des interprétations. Il reste des interprétations dans le sens où, en fait, une interprétation, une manière d'interpréter une perception, il n'y a pas besoin de penser. Par exemple, j'inspire, j'expire. Eh bien, il n'y a pas besoin de dire j'inspire, j'expire pour sentir j'inspire, j'expire et pour avoir la sensation qui est un jeu qui inspire et qui expire. Quand il y a un moment de conscience, il va y avoir intuitivement la sensation « je suis conscient ». Le jeu est présent parce qu'il est conçu implicitement. Il n'a pas besoin d'être nommé, ça n'a pas besoin d'être une pensée. Voilà, de la même manière, prenons par exemple un poteau de téléphone, un poteau en bois dans une prairie. Vous voyez, les poteaux reliés par des fils qui traversent la prairie. La première chose qu'on va voir dans notre pleine conscience, c'est on va simplement voir un poteau téléphonique. Et on n'aura pas besoin de le nommer, ça n'a pas besoin d'être une pensée, c'est ça qu'on va voir. Pour un enfant, il va avoir un poteau téléphonique parce qu'il ne sait pas encore que ça existe, les poteaux téléphoniques, il va avoir un bout de bois planté dans le sol. Nous, on va voir déjà, ça va déjà être une image qui a une certaine élaboration qu'on va percevoir dans notre pleine conscience. Ça m'a dit, la méditation, la concentration, va nous permettre d'aller au-delà de ces constructions. Encore, c'est-à-dire que peu à peu, on va aller à des niveaux de profondeur par la concentration qui vont amener notre esprit à construire encore moins. Parce que la construction d'une image, c'est une opération du cerveau. Ça prend du temps, de l'énergie. Et c'est, en fait, le cerveau, c'est des millions d'informations à la seconde qui traitent pour percevoir et recomposer et nous proposer tout ce monde qu'on perçoit. Et au fur et à mesure, si on arrête de le solliciter encore et encore, eh bien, il ralentit. On l'a vu, les pensées ralentissent. Et puis après ça, il y a un ralentissement qui fait qu'il se mesure. Il y a tout un tas de recherches qui se font là-dessus. Il y a un ralentissement qui font que peu à peu, la réalité n'est plus construite. C'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins de perceptions. Dans la méditation, il va y avoir de moins en moins de perceptions. De la même manière que dans la pleine conscience, quand on revient à un moment de pleine conscience dans le quotidien, il va y avoir déjà beaucoup de couches de perceptions et de mondes qui ne sont pas créés, et du coup ça va se simplifier. Avec la pratique de samadhi, de la méditation, d'aller plus en profondeur, il va y avoir encore une simplification de la perception. De ça, En fait, ça peut aller très très loin. Il y a une expérience, par exemple, qui m'est revenue tout à l'heure, c'est avec des moines tibétains. Donc en fait, on faisait faire à des non-méditants, on flashait une image sur un écran avec deux points, et assez rapidement. Et on demandait aux gens jusque quand ils voyaient deux points. Et puis les points étaient de plus en plus rapprochés. Et puis à un moment, les non-méditants, à un moment, ne voient plus qu'un point. Alors qu'il y a encore deux points, mais ils sont tellement rapprochés, ça va tellement vite qu'on ne voit plus qu'un point. Et des méditants bien entraînés, bien, c'est-à-dire absolument sans distraction, juste avec les yeux sur l'écran, voient les deux points beaucoup plus longtemps que, je veux dire, le commun des mortels comme nous. Par contre, quand ils sont dans le même état, si on flash une lettre de leur alphabet, ils voient la chose, mais ce n'est plus une lettre. Parce qu'il n'y a plus l'interprétation, il n'y a plus la création d'un contenu. À ce moment-là, c'est ce que je disais, ils vont voir un bout de métal par terre, ils ne vont pas voir une fourchette. Et ça ne sera probablement même pas un bout de métal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est déjà une élaboration de l'esprit. Dans ces moments-là, n'apparaît plus non plus, et c'est là que je veux en venir, la construction de soi, n'apparaît plus le jeu. Le jeu si problématique, le jeu qui, dans cette conception de nous-mêmes, crée ce stress, crée cette dukkha. Hein? Moi de soi, moi de dukkha. Nagarjuna. Plus de soi, plus de dukkha. Plus de tensions, plus de problématiques. Et on le voit, hein, quand il y a énormément de soi. Si par exemple quelqu'un nous insulte, et à ce moment-là, il y a énormément de soi, une grande activité mentale, une grosse sensation physique, le temps est affecté, et puis il y a moi, et puis il y a le reste du monde. Et puis à d'autres moments, il y a beaucoup moins de soi. Quand on marche peut-être tout à l'heure dans le yatra, ou quand on marche dans la forêt, ben, il y a moins besoin de soi aussi. Donc il y a moins de soi. Donc le soi, on l'a vu, c'est une échelle qui est toujours en mouvement. Et là, avec la méditation, on peut visiter des espaces dans lesquels il y a très très peu de soi parce qu'il n'est pas construit. Et du coup, moins de dukkha. Pour ça qu'on dit aussi samadhi, c'est le. C'est une expérience très agréable aussi, le samadhi, avec beaucoup d'espace, peu de soi. Et l'expérience de samadhi en soi n'est pas spécialement. Enfin, si, elle est très très intéressante, elle est agréable, il y a beaucoup de discussions dans les traditions, parce que ça peut créer un attachement et on peut vouloir y retourner encore et encore et encore. Mais ce n'est pas ça non plus le projet. Le projet, c'est de voir en fait ce mouvement et cette création du soi qui émerge et qui disparaît, et qui émerge et qui disparaît, de manière à comprendre ce qu'est le soi et du coup le non-soi. Donc la pleine conscience, sur cette échelle-là, elle n'est pas à ce niveau de profondeur. Sati ne va pas au même niveau que Samadhi. Sati reste avec une certaine conscience de nous-mêmes. Et c'est dans cet espace-là, c'est un espace d'expérimentation, parce qu'on est suffisamment conscient pour essayer d'autres manières de voir. Par exemple, comme on l'a fait aujourd'hui, on a essayé de voir l'impermanence. La permanence, ce n'est pas quelque chose qui se perçoit par les cinq sens. Il y a une notion de concept, il y a une idée, et on essaye d'observer la permanence. Après, ce qu'on peut faire, et ce que je vous le dirai, tiens, ce que le Bouddha nous recommande de faire, c'est de, une fois qu'on a compris la permanence, c'est assez simple, okay? Une fois qu'on a compris la permanence, on essaye de voir la permanence. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et quand on s'entraîne et qu'on devient familier avec la permanence, à ce moment-là, on peut regarder à travers les lunettes de la permanence. C'est-à-dire, comme c'était déjà présent dans le premier discours, quand une situation se présente, on peut se dire, elle est impermanente. Vous voyez donc, d'abord comprendre, ensuite essayer de la réaliser, la permanence, et puis s'en rappeler dans certains moments. Et ça, le moment où on va se rappeler de l'impermanence, c'est dans la pleine conscience. Donc la pleine conscience est le seul moment où on va pouvoir mettre à jour et entraîner cette manière de voir. Vous me suivez? Le moment de pleine conscience est le seul moment où on va pouvoir mettre à jour, tester, expérimenter et ancrer tout ça, tester, expérimenter et ancrer une nouvelle manière de voir. Ça peut être la générosité. Voilà, peut-être c'est pas une réponse spontanée en nous, la générosité. Et puis vient une situation où on a tendance à garder un petit peu et où on se rappelle qu'en fait on a envie d'être généreux. Ben, le moment où on va se rappeler, c'est un moment déjà de conscience. Et c'est le moment où on va pouvoir tester en fait la générosité et qu'on va pouvoir sentir ce que ça nous fait en fait quand on est généreux. Et à force de répéter, peut-être qu'on va trouver ça agréable et que du coup ça va devenir plus un réflexe. Donc, je pense que ce que j'ai envie d'amener là, c'est que la pleine conscience, d'une certaine manière, est une manière d'apaiser l'esprit, d'apaiser la prolifération. Et puis, après, ça devient un espace d'expérimentation dans lequel on peut tester et ancrer et pratiquer des nouvelles manières de voir. Et voir ce que ces manières de voir nous font. Avant de vous lire ça, encore quelque chose qui me vient. Par exemple, donc Thich Nhat Hanh, le maître vietnamien, c'est un peu le champion de la pleine conscience, lui, hein, en France. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il parle souvent dans ses livres ou dans ses discours, il dit des choses comme, par exemple, quand je regarde un arbre, je vois la pluie. Quand je regarde un arbre, je vois le vent. Quand je regarde un arbre, je vois les nuages. Dans l'arbre, je vois le ciel. Dans l'arbre, je vois l'univers. Voilà. On entend souvent, il va parler comme ça. Comment il voit ça? C'est vrai, hein? Champion de la pleine conscience, il regarde un arbre et il nous décrit un arbre en disant, quand je regarde l'arbre, je vois l'univers. En fait, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Ça veut dire que dans son regard, il amène une compréhension. Ça veut dire que dans son regard, il a l'entraînement de voir l'interdépendance, l'interconnexion et l'unité. Il s'est entraîné à ça. Et du coup, quand il voit l'arbre, il ressent le tout. Il vit le tout. C'est ça son expérience. Mais ce n'est pas juste à travers les cinq sens. Comprenez, c'est parce qu'il y a eu un entraînement de l'esprit. Un entraînement de l'esprit, en plus, l'interdépendance, ce n'est pas si facile que ça. Ça demande un peu de réflexion. Il faut bosser un peu sur le concept de l'interdépendance pour qu'il soit accessible et évident, en fait. Pour que ça soit, ce n'est pas une évidence au départ. L'évidence au départ, c'est il y a moi, et puis après ça, il y a le reste du monde, et ce qui se passe dans le reste du monde n'est pas directement en lien avec moi. D'où la possibilité d'être heureux, même si tout le monde autour est malheureux. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est possible. Hein? On le voit tout autour de nous. Et donc, ça demande quand même un certain entraînement, en fait, de comprendre l'interdépendance. Et Thich Nhat Hanh, très clairement, a fait cet entraînement. Et donc, dans sa pleine conscience, il perçoit d'une manière que nous ne percevons pas facilement parce que nous n'avons pas fait cet entraînement. Et il perçoit quelque chose qui n'est pas perceptible à travers les cinq sens. Et là, il a suivi le même cheminement que la science, en fait. Si on regarde la science, la science jusque Galilée, c'était mesurer et expliquer ce qui était perceptible. Et c'est seulement à partir de Galilée qu'on a commencé à développer des expériences de pensée et qu'on a commencé à avoir des compréhensions. De découvrir des lois qui n'apparaissent pas dans les perceptions. Comme un exemple que j'aime beaucoup aussi, donc de Galilée, par rapport à la chute des corps. Il y avait cette loi, je pense qu'elle datait depuis Aristote, qui est encore lourd tombe plus vite qu'un corps léger, dû à sa masse donc. Puis Aristote, il s'est dit, mais en fait, il y a une contradiction. Parce que si on prend une plume, et une pierre, ou un marteau, je ne sais plus quel exemple il a pris, et que on les attache ensemble, à ce moment-là, ça devient un seul corps, c'est un seul objet. Alors qu'est-ce qui se passe? Si un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger, à ce moment-là, le marteau va tomber beaucoup plus vite que la plume, du coup la plume devrait ralentir le marteau. Il dit, mais par contre, vu que les deux objets attachés ensemble ne forment plus qu'un objet, cet objet est plus lourd que le marteau tout seul, donc il devrait tomber plus vite en fait. Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'il a fait Galilée. Il a, et comme ça, en fait, il a découvert quoi? Il a découvert que c'était d'autres lois, comme le frottement de l'air, et d'autres lois, en fait, qui faisaient que les objets tombaient à des vitesses différentes. Et il a dit, et il a émis du coup cette hypothèse que dans le vide, qu'on ne connaissait pas encore, qu'on n'avait même pas encore réussi à créer, mais qui était même encore contesté, la réalité du vide. Et il disait, dans le vide, quelle que soit leur masse, les objets tomberont à la même vitesse. Et ce n'est que, je crois, Apollo, je ne sais plus combien, sur la Lune, et vous pouvez le voir, j'ai été le voir sur Internet, vous pouvez aller voir, hein, il y a en l'honneur de Galilée, cette expérience qui est faite dans le vide sur la Lune, il laisse tomber une plume et un marteau, et qui tombe à la même vitesse. Et Galilée, il a trouvé ça comment? Par une expérience de pensée. Et Einstein, il a développé ça. Alors, j'adorerais vous raconter ça, mais il y en a pour des heures, des expériences de pensée. Et Bouddha, il a fait la même chose. Il a développé des expériences de pensée qui lui ont permis de découvrir des lois à propos de l'existence de soi, à propos de la nature de la réalité, qui ne sont pas accessibles uniquement par l'observation et les cinq sens. En appliquant son esprit en plus de son observation et en expérimentant. En expérimentant comment? En expérimentant pendant la pleine conscience. Pendant la pleine conscience, il va se rappeler. Donc, on est assis là. On a pris beaucoup la permanence, mais imaginons par exemple qu'il y ait, on parlait du jeu. Si pendant ma méditation, et il y a plein d'instructions comme ça en méditation, si on pratique par exemple « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas cette pensée, je ne suis pas la respiration, je ne suis pas… » Eh bien, peu à peu, on va faire l'expérience de quelque chose d'autre, d'une désidentification, et le « je » va apparaître de moins en moins. Vous voyez, donc en fait, dans la pleine conscience, on mène des expériences en fonction de certaines compréhensions, Et on découvre la possibilité d'être autrement. Donc on découvre la possibilité en fait de faire l'expérience de manière d'être qui crée moins de souffrance. C'est un peu. Alors si je vous embrouille, c'est normal. Normalement, j'espère que vous ressortirez de cette journée avec plus de questions que de réponses, et peut-être même un peu fatigué. Parce que c'est très engageant, en fait. Mais on a besoin de questions. Donc, on l'a vu dans vos réponses, quand tu dis que le fait d'avoir amené dans le regard et dans cette présence, la conscience de l'impermanence, qui n'est pas quelque chose qui... C'est un concept, l'impermanence, qui est lié au temps. C'est complètement conceptuel, ce n'est pas perceptible avec les yeux, les oreilles, le toucher, le goût, l'odorat. C'est un concept. Et en amenant cette idée de l'impermanence, ça a permis l'émergence de quelque chose qui n'aurait pas pu être accueilli de la sorte. Voilà, en fait, c'est une expérience menée avec un concept qui ouvre et qui permet de lâcher prise. Alors, maintenant je vous lis le petit texte. Je vous relis déjà ce que je vous lisais tout à l'heure dans la méditation. Donc, c'est Bouddha qui parle à un de ses plus anciens disciples, Ananda. Je pense que c'était son cousin, qui avait une mémoire phénoménale. Ananda, la mémoire d'Ananda. C'est pour ça qu'on a tous les écrits du Bouddha. C'est parce qu'Ananda, il est resté tout le temps avec le Bouddha. Il se rappelait de tout. Et du coup, les autres lui ont dit « tu restes tout le temps avec le Bouddha » parce qu'il bougeait le Bouddha. Il allait d'un monastère à l'autre. Ben, Ananda, il bougeait avec lui, c'était le seul. Parce qu'il se rappelait de tout. Et après ça, il pouvait le redire. Et c'est pour ça qu'on a tout ça. Et alors là, le Bouddha parle à Ananda et il lui dit « et qu'est-ce Ananda que la perception de la permanence ?» Ah, la perception de la permanence, c'est intéressant, hein, pas par les cinq sens. Hein. Qu'est-ce que la perception de la permanence ? En cela, un bhikkhu c'est un moine, s'étant rendu dans la forêt, au pied d'un arbre ou dans un local vide, considère ceci. Donc ça, au pied d'un arbre, c'est en méditation. Okay, il s'installe, le moine s'installe en méditation. Et il considère ceci. La forme est impermanente. Le ressenti est impermanent. La perception est impermanente. Les constructions sont impermanentes. La conscience est impermanente. En gros, ça veut dire que tout ce qu'on peut observer change. Là, il a divisé tout ce qui existe dans l'expérience humaine. Nous, on le diviserait très certainement autrement. On dirait les émotions sont impermanentes, les sensations physiques sont impermanentes, les sons sont impermanents, et tout, et peu à peu, on arriverait à tout ce qu'on peut percevoir, et on dirait tout ça est impermanent. Donc le moine considère tout ça. Il demeure ainsi à observer la permanence dans les cinq accumulations d'attachement. Les accumulations d'attachement, en fait, c'est ce à quoi on peut s'attacher. Ben là, tout ce qui se présente, possiblement, on pourrait s'y attacher. Donc, il demeure ainsi à observer la permanence dans les cinq accumulations d'attachement. Voici, Ananda, ce qu'on appelle la perception de la permanence. Et plus loin dans ce texte, il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant la permanence. Il s'entraîne, je vais expirer en contemplant la permanence. Donc en fait, l'inspiration, pour le Bouddha, c'était l'ancrage. Donc il reste présent. Mais il ne va pas trop loin, c'est de la pleine conscience. Hein. Ce n'est pas samadhi. Samadhi, ça va beaucoup plus loin encore. Ce n'est plus possible de faire ça, samadhi. C'est trop de travail encore là. Vous voyez, là, c'est de la pleine conscience. Il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant la permanence. Il s'entraîne, je vais expirer en contemplant la permanence. Il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant le détachement. Il s'entraîne, je vais expirer en contemplant le détachement. En contemplant le détachement qui permet aux choses d'être. Et du coup, en fait, ce que le Bouddha nous dit, c'est pas simplement la permanence qu'il faut voir. Il faut voir le détachement que la permanence produit. L'effet d'observer la permanence, c'était aussi ton retour, permet à des choses qui n'auraient pas pu être, d'être, parce qu'il y a un certain détachement. Et donc, le Bouddha dit au moine, tu observes la permanence et puis tu observes l'effet de la permanence, qui est le détachement. Et puis, il s'entraîne, je vais inspirer en contemplant la cessation. Et je vais expirer en contemplant la cessation. La cessation, cessation de quoi ? Cessation de la prolifération, cessation de certaines perceptions, de certains mondes construits qui ne sont plus là dans le moment. Ils sont juste plus là, ils ne sont pas appelés. Cessation après, peu à peu, même de la perception. Et là, on va vers samadhi. Il y a moins de perception. Et ça, c'est vraiment à remarquer, ça, que dans des moments très tranquilles de méditation, il y a moins de perception. Même les perceptions des sons. Et parfois, même la respiration, on ne sait plus trop où elle est. On la sent plus trop, en fait. Comme si elle avait ralenti tellement que... Parfois même, je connais des gens qui ont eu très peur, comme ça, ils ne trouvaient plus leur respiration. Comme si elle n'était plus là. Et ça. Parce que, en fait, là, le cerveau ralentit, et ne construit plus la sensation de la respiration. On pourrait l'expliquer comme ça, en tout cas. Donc, le détachement va entraîner la cessation, parce qu'on ne stimule plus. On n'est plus en demande de « je veux encore des oiseaux, je ne veux plus de ceci ». Le détachement, c'est laisser être. Peu à peu, il y a comme si on n'investissait plus un besoin que l'oiseau chante plus fort, que le frigo s'arrête, que ça n'a plus vraiment d'importance en fait. Et donc, du coup, ce n'est plus stimulé. Notre esprit ne va plus vers, il reste en lui-même. Il y a une sensation d'espace avec cette sensation. Il y a une sensation aussi d'authenticité. Il y a une sensation de presque de non-temps parfois. La perception du temps change extraordinairement. La perception du corps. Et il finit par voici Ananda, ce qu'on appelle la présence de l'esprit sur la respiration. La présence de l'esprit sur la respiration. Donc c'est la pleine conscience de la respiration à travers un projet, à travers une manière de voir et de regarder. Lâcher prise. Ce sont des manières de comprendre, des manières d'interpréter l'expérience, des manières d'expliquer qui vont permettre de lâcher, de construire de moins en moins de réactivité, de souffrance, de désir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont, d'inconfort, de stress. Alors, mais en même temps, ça paraît immense. Ça paraît, oh là là, ça, c'est un sacré projet. Et il faut le prendre tranquille. Mais il faut savoir que vous êtes pratiquante Et je suis bien conscient que certains vont avoir peut-être une pratique un peu plus régulière, d'autres pas du tout. Mais il faut être bien conscient que c'est sur ce chemin-là, en fait, qu'on se trouve quand on pratique la pleine conscience. Même si de ça, on n'a pas encore pris la mesure et l'ampleur, en fait, voilà de quelle tradition c'est issu. Voilà quelle est la place de la pleine conscience aussi, comme un espace d'entraînement. Le Bouddha utilisait souvent le mot entraînement. C'est un espace d'entraînement. On entraîne d'autres manières d'être, on entraîne d'autres compréhensions. Et à force de les répéter, elles deviennent intimes, elles deviennent accessibles. L'impermanence, si elle est suffisamment répétée, à un moment, c'est comme ça. Quelque chose de difficile se produit, on se rappelle de l'impermanence. Et automatiquement, hop, il y a un certain détachement par rapport à la problématique que ça crée en nous, et ce qui nous rend, en retour, plus aptes à répondre d'une façon qui nous correspond mieux, qui a plus de sagesse, plutôt que d'être réactif. Donc l'entraînement va permettre, pareil pour la bienveillance, extrêmement important, ce n'est pas le thème de la journée, mais tellement important d'entraîner la bienveillance, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe, en fait, pour ramener de l'amour. Et cet entraînement-là ne peut se faire que dans Sati. Les compréhensions vont aller se chercher ailleurs, la compréhension juste, l'éthique, la recherche de l'éthique. Mais l'entraînement, l'espace d'entraînement, sera toujours Sati, la pleine conscience. Merci pour votre écoute. Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite car votre démarche exprime votre considération et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.